France Inter.
Le journal Anaïs Fioga, bonjour Anaïs.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le ton monte entre les États-Unis et Israël.
Pour la première fois, les États-Unis conditionnent leur aide militaire à des mesures immédiates en faveur des civils. Joe Biden l'a dit hier au téléphone à Benjamin Netanyahou, les détails dans un instant. À l'Assemblée nationale, les députés adoptent les prix planchers pour les agriculteurs contre l'avis du gouvernement. Un nouveau collégien entre la vie et la mort après une agression à Viry-Châtillon en région parisienne. Et puis c'est le bateau le plus rapide du monde, celui de l'équipe de France à la prochaine Coupe de l'Amérique.
À suivre sur France Inter à 7h50, il sera question de la dépénalisation du cannabis, non pas sous l'angle de la santé, mais de l'économie. Serait-elle profitable à nos finances? Question posée à nos débatteurs Thomas Porcher et Dominique Seux. Et à 8h20, les retours des vendredis de l'Europe. On reçoit les principales têtes de liste avant l'élection du 9 juin. Ce matin, François-Xavier Bellamy pour les Républicains et Valérie Ayé pour la majorité présidentielle.
France Inter.
Le message était clair, il a déjà une réponse. Le bureau du Premier ministre israélien annonce cette nuit la livraison temporaire d'aide humanitaire dans la bande de Gaza via deux points de passage, le port d'Ashdod et Erez. Les autorités israéliennes vont aussi permettre l'augmentation de l'aide par la Jordanie. Des mesures immédiates annoncées après le coup de fil hier soir entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden. Le président américain lui a demandé de conclure sans délai un accord pour un cessez-le-feu. Il lui a dit qu'il jugeait inacceptable les frappes qui ont tué des humanitaires étrangers. La coupe semble pleine et pour la première fois, Sébastien Paour, les États-Unis font un lien entre leur aide et des actions rapides pour protéger les civils de Gaza.
Les mots sont pesés, mais le ton a changé. Pour la première fois, et sans dire clairement ce qu'ils attendent, les États-Unis posent des conditions à leur soutien à Israël. John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Ce que nous attendons et espérons voir ici dans les heures et les jours à venir, ce sont les mesures concrètes, tangibles qu'ils prennent. Et si nous ne voyons pas de changement de leur côté, ils devront être faits d'une autre. Car le conflit a changé en 6 mois.
On October 7th, there wasn't near famine in Gaza.
Le 7 octobre, Gaza n'était pas au bord de la famine. Il n'y avait pas eu de diminution du nombre de camions entrant à Gaza. Il n'y avait pas des milliers d'innocents tués. Le message du président est le suivant. Nous devons voir des changements dans la manière dont Israël fait face à la menace. C'est ce dont peuvent discuter deux bons amis et alliés. Pour autant, le soutien américain n'a pas changé. Nous soutenons et nous continuerons à soutenir non seulement philosophiquement mais concrètement le droit d'Israël à se défendre. Notre soutien à l'autodéfense d'Israël reste inébranlable. En décembre, les États-Unis ont encore livré à Israël près de 14 000 obus de 120 mm et 57 000 de 155 mm. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Les États-Unis qui restent vigilants, ils demandent au gouvernement israélien de mettre en œuvre rapidement et complètement les mesures promises. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui sur le risque de famine dans le territoire et la situation des travailleurs humanitaires. Dans le nord de Gaza, la population survit avec à peine plus de 10% des besoins caloriques quotidiens, moins qu'une boîte de haricots. Les ONG rappellent que plus de 200 humanitaires ont déjà été tués dans les bombardements israéliens sur Gaza.
En France, coup de théâtre à l'Assemblée nationale hier soir, juste avant minuit.
Oui, car contre l'avis du gouvernement qui n'a eu de cesse de dissuader ses députés de voter le texte, l'Assemblée a adopté une proposition de loi écologiste qui instaure des prix planchers pour les agriculteurs. Deuxième camouflé de la journée pour l'exécutif après l'adoption à l'unanimité de l'interdiction à partir de 2026 des produits contenant des PFAS, ces polluants éternels. Hier soir, c'est donc un texte visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs qui a donc été voté. La gauche crie victoire. L'exécutif Paul Barcelone s'en mêle les pinceaux.
Les prix planchers, Emmanuel Macron les avait promis lors de sa visite sous tension en février au Salon de l'agriculture. Fausse bonne idée, usine à gaz, trop d'effets pervers. Alors pour garantir un revenu décent aux paysans, l'exécutif préfère travailler à une nouvelle mouture des lois Egalim. Sauf qu'hier, la majorité ne s'est pas mobilisée. Les Républicains et le Rassemblement National, historiquement favorables à la mesure, se sont abstenus. Résultat du vote, 89 voix pour, 66 contre. La gauche unie crie victoire. Les écologistes pointés du doigt pendant le mouvement de colère des agriculteurs redorent leur blason. Camouflet, en revanche, pour le gouvernement, pris par surprise au lendemain de la présentation de la loi d'orientation agricole, censée lui permettre de tourner la page de la crise. Et nouveau coup dur au Parlement, 15 jours après la débâcle au Sénat sur le vote du CETA, le traité de libre-échange avec le Canada.
Et toujours à propos d'agriculture, les réserves du Conseil d'État sur le projet de loi agricole, en particulier l'accélération des contentieux autour de la construction de réserves d'eau, risque de constitutionnalité selon le Conseil d'État qui pointe aussi une étude d'impact insuffisamment motivée. Nouvelle réunion technique aujourd'hui des partenaires sociaux de l'Agirc-Arrco, les retraites complémentaires du privé. On devrait y parler revalorisation des petites retraites, car le régime, on le sait, est en excédent et le gouvernement Maxime Debs, en ce moment compliqué pour les finances publiques, lorgne toujours autant sur le pactole.
78,5 milliards d'euros, ça ne peut susciter que des convoitises. Mais ce soi-disant magot, terme qui hérisse les partenaires sociaux, est en fait une réserve destinée à voir venir, l'équivalent dans les caisses de 11 mois de prestations pour les quelques 13 millions de retraités du privé qui bénéficient d'une pension complémentaire de l'Agirc-Arrco. Un régime dans le vert, certes, mais qui ne le doit qu'à lui-même, au moins pour l'instant. Les effets de la réforme ne se feront sentir que progressivement d'ici à 2030, ont récemment précisé les administrateurs du régime. Mais puisque les comptes vont encore s'améliorer, grâce à la réforme, l'exécutif n'aurait pas renoncé à se servir de ses recettes pour l'aider à revaloriser les petites pensions du régime général, ce qui serait proprement scandaleux pour les partenaires sociaux, qui rappellent au passage les sacrifices considérables consentis par les salariés du privé, à qui l'on a demandé en 2019 de travailler un an de plus sous peine d'une décote, un effort qui, pour les représentants syndicaux, mériterait d'être récompensé plutôt que ponctionné, si d'aventure c'était toujours effectivement le projet du gouvernement.
Précision Maxime Dell. Le maire de Viry-Châtillon dénonce un déchaînement d'ultra-violence. Un élève de 3e qui sortait du collège et rentrait chez lui a été roué de coups par plusieurs personnes prises en charge par les pompiers en arrêt cardio-respiratoire. L'adolescent de 15 ans a été transporté en urgence absolue à l'hôpital hier. Aucune interpellation pour le moment. Une agression qui rappelle celle d'une autre collégienne mardi à Montpellier, sortie du coma. En parallèle de l'enquête de police, des inspecteurs généraux de l'éducation nationale sont attendus sur place aujourd'hui pour une mission flash de 8 jours. La ministre de l'Éducation nationale veut faire la lumière sur les faits, savoir s'il y avait harcèlement et si des fautes ont été commises. La violence qui gangrène aussi les quartiers où prospère le trafic de drogue. Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes ou Strasbourg ont vu débarquer ces derniers jours des policiers en force. Opération baptisée Place Net XXL et qui se multiplie à grand renfort de communication avec comme objectif la lutte contre les stupéfiants. Quelles sont leurs conséquences sur le terrain ? France Inter est aujourd'hui près de 10 Dijon le 13-14 en direct de Talent. Ariane Grissel, vous êtes allée voir comment se mesurent les effets de ces opérations dans les différents lieux fouillés depuis le début de la semaine dernière.
Le début de l'opération a été largement médiatisé, on ne peut donc pas vraiment parler d'intervention surprise.
Là.
Parmi les différents lieux visités, la commune de Chenaux, où Django, chien policier, a beau chercher.
Mieux que ça.
Rien, jardin, cave, escalier, tout semble avoir été nettoyé, loin du contexte habituel, comme le constate ce policier.
Les dealers peuvent avoir la capacité de contrôler un bâtiment comme ça complètement. Entrée, sortie et tous les étages.
Les trafiquants se sont visiblement passé le mot, tout rangé, le temps de la présence policière. Oui, mais combien de temps ? C'est la question que se posent à quelques kilomètres de là les habitants du quartier dijonnais de la Fontaine-Douche, l'un des premiers concernés par l'opération. Pour beaucoup, peu importe la raison du calme tant qu'il dure.
Nous, on attend justement qu'il y ait une sécurité, qu'il y ait des fouilles, qu'il y ait tout ça pour que tout ça s'arrête. Donc là, on est bien, mais jusqu'à quand ?
Là, on retrouve une vie normale. On n'a plus de motos qui font du rallye. Même dans les derniers temps, il y avait les incivilités qui perduraient. Donc maintenant, tout ça s'est estompé et on s'en réjouit. Mais la question que tout le monde se pose, cela va-t-il durer ?
Un bon début, salue encore un autre habitant du quartier. Maintenant, dit-il, il faut maintenir le cap.
Reportage Ariane Grissel. 30 ans de prison prononcé hier contre le principal accusé au procès de l'attentat de Strasbourg, condamné pour avoir aidé le djihadiste à se procurer l'arme avec laquelle il a tué 5 personnes au marché de Noël en 2018. Des peines plus légères de 5 et 4 ans de prison ont été prononcées contre 2 autres accusés. Le 5e a été acquitté.
7h09, la disparition des forêts tropicales se poursuit à un niveau inquiétant.
C'est l'équivalent de la superficie de la Suisse qui a été rayée de la carte l'année dernière. Plus de 3,5 millions d'hectares de forêts primaires. Alors certes, il y a du mieux, la destruction est en baisse de 9% sur un an, mais le rythme est effrayant. L'équivalent de 10 terrains de football de forêt détruits chaque minute, s'en dit Dauphin.
L'Amazonie, le bassin du Congo et celui d'Asie du Sud-Est, le rythme de déforestation reste préoccupant dans ces grandes forêts tropicales qui comptent parmi les plus anciennes et les plus riches de la planète. Elles sont aussi un régulateur essentiel du climat puisqu'elles absorbent et stockent du CO2. Or, l'année dernière, la destruction des forêts a libéré 2,4 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est l'équivalent de la moitié des émissions des États-Unis. Le rapport note toutefois des progrès spectaculaires au Brésil depuis le retour du président Lula qui s'est engagé à protéger l'Amazonie. Le rythme de la déforestation s'est ralenti, les pertes forestières ont diminué de plus d'un tiers. Mais dans d'autres pays, la situation s'est aggravée, explique Rod Taylor du World Resource Institute qui publie ces données.
On a eu des réductions au Brésil et en Colombie, mais elles ont été contrebalancées par des augmentations en Bolivie, au Nicaragua et au Laos. En Afrique, le niveau est ce qu'on appelle obstinément persistant. Le plus grand pays forestier, la République démocratique du Congo, a un rythme soutenu de déforestation depuis des années. Il est même en légère augmentation.
Il y a 2 ans et demi, 145 pays se sont engagés à cesser la déforestation d'ici la fin de la décennie. Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Non, répondent les auteurs de ce rapport.
Rapport d'un institut de recherche américain, le World Resource Institute. Les chiffres sont à retrouver sur franceinter.fr. Et puis en France, le ministre de la Transition écologique publie aujourd'hui la carte des zones concernées par l'érosion côtière due à la progression des océans qui s'accélère. Il y aura des zones qui seront inhabitables, dit le ministre, sur le littoral. 500 communes et un millier de bâtiments sont potentiellement concernés d'ici à 2028. L'avenir s'assombrit pour Rafael Nadal. L'Espagnol de 37 ans vient de déclarer forfait pour le tournoi de tennis du Masters Mills de Monte-Carlo qui débute dimanche. Mon corps ne me le permet pas, dit Nadal. Enfin, voilà maintenant des embruns qui décoiffent et une vitesse jamais atteinte sur un bateau à voile. On vous présente ce matin l'AC75, le bateau français de la prochaine Coupe de l'América. Sorti des chantiers de construction en Bretagne en début de semaine, il a traversé une partie de la France par la route pour rejoindre ce week-end la Catalogne et l'équipe de France. Jérôme Val, vous étiez à Barcelone et ce bateau est tout simplement le plus rapide du monde.
Avec ses deux grands foils de chaque côté de la coque, cet AC75 aux couleurs du défi français ressemblera à une sorte d'insecte marchant sur l'eau, ou plutôt volant au-dessus de l'eau. Car ce monocoque révolutionnaire ne navigue plus, il plane. Quentin Delapierre en est le barreur.
Quand il y a du vent, on va être au-dessus des 100 km/h, on va toucher 110, 115, on va aller à des vitesses qu'on ne connaît pas. On n'est pas beaucoup de marins à naviguer à ces vitesses-là.
Et à ces vitesses-là, il y a un impératif de sécurité, reconnaît l'autre barreur, Kevin Péponi.
Ce qui est assez violent, c'est l'eau qu'on prend dans la figure. Et ça nous a fait quelques petits protocoles commotion, des courbatures dans la nuque. Mais ça peut être assez violent, ouais. On a installé des petits sièges baquets, un peu comme l'automobile, la Formule 1, où on évite le coup du lapin.
Pour le faire décoller, L'AC75 sera truffé de technologie et pour l'alimenter en énergie, et c'est la modernité de la Coupe de l'América, il y aura à bord 4 cyclistes, dont Timothée Lapeau.
Le grand fessier, par exemple, c'est le muscle le plus gros du corps humain. Donc, on est quand même beaucoup plus puissant en termes de watts à pédaler sur un vélo. Toute l'énergie vraiment qu'on va apporter depuis nos jambes va être exploitée ensuite pour régler les voiles, régler les foils du bateau.
Une fois équipé, le bateau français sera mis à l'eau fin mai à Barcelone. Alors, le spectacle pourra commencer.
Oui, Barcelone où se dispute la Coupe de l'América à partir du mois d'août, l'ancêtre des compétitions de voile créées en 1851.
1851, c'était le journal d'Anaïs Feuga. À suivre, le porno est-il devenu plus éthique ? Question posée dans le Zoom à 7h15.